Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciat, c'est bienvenue dans votre émission Page à Page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 10h à 10h30 sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Henri de Carvalho. Bonjour Henri.
Bonjour Claire.
Pour son livre La Rive Cachée, dont nous allons parler dans quelques instants, mais comme à l'accoutumée, quelques petites infos. En fait, j'en ai juste deux. Pour vous dire que demain, vendredi 11 novembre, à 17h30 à la librairie Ombre Blanche, 50 rue Gambetta à Toulouse, une rencontre avec Pascal Dessin et Philippe Matsas, l'auteur et le photographe, du livre « Les voies perdues » aux éditions Après la Lune. C'est un livre sur un monde ferroviaire et industriel aujourd'hui disparu ou en voie de disparition. C'est aussi un livre qui parle des gens du Nord, puisque comme vous le savez, Pascal Dessin est originaire de Dunkerque, et de leur passé, parfois douloureux. Et puis ce livre, c'est aussi la rencontre de deux hommes, l'écrivain et le photographe, unis dans la même idée que tous les voyages sont possibles et même nécessaires. Donc c'est demain 17h30 à Ombre Blanche. Et puis samedi 12 novembre à 15h à la librairie Gibert, 3 rue du Thor à Toulouse, une rencontre avec l'auteur de bande dessinée Guillaume Bouzard, un auteur indépendant grâce à sa trilogie The Autobiography of Me. Alors paru aux éditions des Requins Marteaux, hein, l'incontournable maison d'édition indépendante de bande dessinée. Alors Guillaume Bouzard sévit également dans le mensuel Fluide Glacial. Donc ça c'est samedi à 15h à la librairie Gibert.
Page à page, Claire Ambille.
Voilà, donc la page info étant refermée, je me tourne maintenant vers mon invité, donc Henri de Carvalho. On va parler un petit peu de vous. Donc c'est Edgar hein, qui est technicien là, qui fait l'émission, qui fait la technique de l'émission, qui nous a présenté hein, entre guillemets. Hein, oui. Donc voilà, et votre livre m'a beaucoup plu et c'est pour ça voilà, vous êtes là aujourd'hui à Radio Occitanie. Alors Henri, vous avez commencé à travailler très jeune, à 11 ans hein, au Portugal. Hein, on va le voir dans votre livre.
Oui.
Et vous avez été aussi en France, là, artisan de décoration dans le bâtiment.
Oui, tout le reste de ma vie jusqu'à la retraite.
Voilà, donc là, vous êtes retraité actuellement. Oui. Mais vous êtes actif malgré la retraite, je dirais, parce que vous continuez d'écrire. Hein, on va le voir en fin d'émission, vous préparez, vous venez de finir un nouveau roman. Hein, voilà, donc l'écriture vous poursuit vous poursuivez l'écriture, je ne sais pas. Et puis vous êtes aussi actif au sein d'associations culturelles. Et puis vous avez également été conseiller municipal dans une commune du Gers.
Non, une commune pas de la Haute-Garonne.
Ah, Haute-Garonne, pardon.
À la frontière du Gers, voilà. C'est-à-dire le Castéra, qui s'appelle le Castéra. Et effectivement, j'étais conseiller municipal pendant 7 ans, oui, dans cette commune. 1000 habitants environ.
Et les livres sont importants, puisque d'ailleurs, dans cette commune, en étant conseiller municipal, vous avez créé une bibliothèque.
Oui, alors j'avais un stock de livres qui était chez moi. Bon, il y avait une centaine de livres. Et puis j'ai commencé j'en ai parlé au maire qui m'a cédé 2 salles, pas de problème. Je les ai décorées, j'ai amené des tableaux, des bibelots avec le cantonnier, on a fait des étagères. Et puis j'ai commencé à faire la manche à droite et à gauche pour récupérer des livres. Et au bout de 3 mois, on avait presque 2000 livres.
Ah oui.
Donc tout était lancé. À un moment donné, j'ai dû dire, bon, on n'envoyait plus de livres, j'ai plus de place pour les mettre. Et c'est parti comme ça.
C'est une belle aventure.
Oui.
Donc alors ce livre, donc ça c'est votre premier roman, hein, La Rive Cachée, c'est un livre à la mémoire de votre maman, hein, Maria.
Oui, ce n'est pas un roman, c'est une histoire vraie.
Oui, oui, bah parce que quand on dit roman, il y a de la fiction. Là, tout est vrai, hein, on va dire. Voilà, les anecdotes, les souvenirs, voilà, tout est réel. Hein, ça s'est vraiment passé.
Ça, c'est du réel, oui.
Donc, c'est un témoignage, on peut dire. Alors, un livre témoignage, un livre souvenir, un livre.
C'est un livre, un hommage à ma mère, parce que même quand j'étais déjà petit, mon père était décédé, j'avais 5 ans. J'étais donc fils unique. Je vivais avec ma mère et puis elle me racontait son histoire et puis je la voyais faire dans la vie et je me disais il y a quand même quelque chose, un destin quand même extraordinaire un petit peu chez cette femme. Et je le sentais ça comme ça, c'est pour ça que j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à écrire.
La première partie du livre, c'est-à-dire qui raconte l'enfance et l'adolescence, et puis le début de vie de femme de votre maman, Maria.
Jusqu'à cet âge-là, quoi. Et puis, je l'ai gardé de côté. J'avais envoyé une copie à un grand écrivain à l'époque au Portugal qui s'appelait Aquilino Ribeiro, qui me l'a renvoyé en me disant, évidemment, bien sûr, qu'à cette époque-là, nous étions sous la dictature de Salazar, et il me l'a renvoyé avec une lettre très incitative, en me disant, mon pote, mets ça dans un tiroir. Si tu étais en France,
tu pourrais.
Mais là, non. Ici au Portugal, actuellement, c'est pas possible. Voilà.
Donc vous l'avez gardé, puis comme on va le voir, vous êtes venu en France clandestinement à l'âge de 20 ans, hein, finalement. Donc ce livre a pu voir le jour aujourd'hui, il est récent, en 2010, hein, dernière, il est sorti. Et vous l'avez terminé, en fait, quand vous avez pris votre retraite, voilà, quand vous avez eu du temps pour le faire.
Oui, parce que bon, déjà, il était en portugais à l'époque. Bon, donc je l'ai traduit en français. Bon, j'ai enlevé des choses, j'en ai ajouté d'autres, bon, et je l'ai arrangé, mais il est en français, bien entendu.
Oui, rassurez-vous, je l'ai lu en français, hein, nos auditeurs, voilà, ne vous inquiétez pas, il n'est pas en portugais, parce que sinon j'aurais pas pu le lire, je ne connais pas le portugais. Mais donc voilà, donc c'est un livre, c'est un peu une expérience troublante, un plongeon de 50 ans en arrière pour vous, à la lumière donc d'une bougie, à l'image aussi de cette lumière d'espérance, hein, qui est omniprésente dans ce livre. Hein.
Oui, parce que quand je l'ai commencé à écrire, donc dans les années 50, 50-60, évidemment que l'électricité était chère. D'ailleurs, là où j'habitais, il n'y avait pas d'électricité. Dans la maison où j'habitais, il n'y avait pas d'électricité. Donc, on s'éclairait à la lampe au pétrole.
Ah, voilà,
mais comme le pétrole aussi était cher,
et oui, des fois,
donc
c'était
avec la bougie, j'écrivais comme ça la nuit, puisque je travaillais le jour à cette époque-là déjà.
Les écrivains travaillent souvent la nuit, hein, c'est ça. Hein,
ouais. La nuit, puis à la bougie. Et cette bougie m'a toujours accompagné, quoi, cette lumière de bougie.
Cette petite flamme de la vie, hein, finalement. Hein,
oui.
Alors, c'est l'histoire, donc, comme je disais, de Maria, votre maman, de Lucia, votre grand-mère, d'Alcide, votre papa, de vous, hein, Enrique, hein, puisque dans le livre, vous êtes, voilà, c'est Enrique. Donc, dans un Portugal où la vie était rude, hein, en ce début du XXe siècle, hein, on va le voir, et où les douleurs n'étaient pas épargnées. Mais c'est aussi un livre où il y a toute l'émotion, tout l'espoir et tout le courage et la ténacité de ces vies, hein, de toutes ces vies qui sont décrites dans ce livre et qui sont bien présentes, hein, dans tout votre roman.
Oui, c'est un livre, c'est d'un côté c'est un hommage à ma mère, mm-hmm. et d'un autre côté c'est un témoignage d'une époque dans un pays qu'est le Portugal,
hein, voilà, ouais, c'est ça.
Parce que je fais dérouler son existence dans un environnement social qui était épouvantable, surtout pour les personnes les plus démunies.
Oui, tout à fait. Oui.
Épouvantable, bon, parce qu'il y avait toutes les contraintes sociales, c'était encore pire qu'aujourd'hui, le poids social des castes, des classes, ceci, des classes de cela, bon, qui sont assez puissantes et qui, ce sont ceux qui sont au bas de l'échelle qui sont les plus écrasés, bien entendu, et qui n'ont aucune porte de sortie, quoi.
Tout à fait. Donc le roman commence avec, alors, si on va parler du titre, La Rive Cachée, on a l'explication du titre en fait, l'explication et ce titre donc prend tout son sens en fait vers la fin du livre, quand Maria range un peu ce qui est important et ce qui ne l'est pas.
Oui.
La Rive Cachée a un sens, ce titre a un sens.
Elle était... À cette époque-là, bon, vers le milieu de l'âge, la quarantaine, c'est le tournant de l'âge, bon, mais ça c'est valable pour chaque être humain, où on commence à se poser des questions sur le sens de la vie, etc. Et à cette époque-là, elle était lavandière dans le fleuve qui passe à Coimbra, le Mondeo.
Dans un hôtel, voilà, pour un
hôtel. Et qu'elle travaillait comme ça pour les hôtels, qu'elle amenait aller chercher le linge, puis qu'elle le ramenait
le soir. Elle lavait dans le fleuve, hein.
Et, voilà, elle lavait dans le fleuve.
Il n'y avait pas de machine à laver, hein, à l'époque.
Non, non. Et puis, à midi, par exemple, bon, quand elle avait fini de laver, et puis qu'elle tendait le linge sur le sable, dans les petits îlots de sable, pour sécher ou en bordure, elle s'asseyait sur, en dessous d'un sol pleureur, là, qui tombait dans l'eau. Et là, dans cet environnement exceptionnel, donc, elle avait entourée des quatre éléments. Elle avait, donc, l'air, l'eau, le feu du soleil.
Le feu du soleil,
Et la terre où elle était assise. Mmh. Donc, dans cet environnement, donc, les quatre éléments basiques et propices, bien sûr, à cette
réflexion.
Introspection.
Mmh, introspection.
Qu'est-ce que je fais là, quoi? Qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre?
Et
quoi
comme...
faire? Qu'est-ce que j'en fais?
Et comme vous l'écrivez, c'était le début de sa résilience. Hein, vous employez le mot résilience.
Oui. Aussi, quand je lui posais des questions, là, quand j'avais 13 ou 14 ans, là, que j'ai commencé, bon, je lui posais des questions. Des questions qu'elle ne s'imaginait pas sur sa propre vie. Et ces questions que je lui posais l'ont aidé.
Voilà, fait poser aussi d'autres questions à elle-même.
Dans sa réflexion. C'était comme une forme de... Sans le vouloir, je faisais de la psychothérapie.
Tout à fait. On le voit au début du roman, donc Maria a 8 ans, hein, on est en 1925, elle a son premier travail entre guillemets, elle garde un bébé de 8 mois, donc voilà, elle a 8 ans et elle garde un bébé de 8 mois, le bébé d'un couple, et c'est comme ça qu'elle commence dans la vie active, hein, on peut dire.
Elle a commencé à travailler à l'âge de 8 ans, sans avoir évidemment fréquenté
l'école,
bien sûr. Et
la majorité ne savait ni lire ni écrire à l'époque.
C'était
le travail de la terre, c'était le travail dur et laborieux.
Et puis, les enfants, bon, pour eux, c'était normal. Hein. Ils naissaient dans cet environnement et pour eux, c'était normal.
Ils ne se posaient pas de questions.
D'ailleurs, on retrouve aujourd'hui, quand on regarde à la télévision, par exemple, des enfants qui travaillent dans des mines
en Inde ou dans certains pays en Amérique du Sud.
Moi, ça me dit quelque chose quand je vois ces images-là. Bon, les enfants, bon, là, comme ça, comme des esclaves. Là. Mais pour eux, c'est normal. C'est la vie, c'est leur destin.
Donc elle a travaillé, donc voilà, elle a gardé après un autre, dans une autre famille, deux enfants, dont un qui était assez terrible, hein, Tilino, hein, voilà. Ensuite, elle a été chez une veuve de gradé, hein, Béatrice, hein, une dame assez, au départ, assez méchante, hein, avec Maria, puis qui finalement, un soir, enfin une nuit, hein, il faut lire le livre, hein, on va pas tout raconter, elle est prise de remords et donc son comportement change complètement par rapport à Maria et elle devient, elle passe de très bons moments ensemble, elle ne la traite plus comme une esclave et comme une prise de conscience pour une personne qui
à cette époque-là devrait avoir entre 60 et 70 ans, qui vivait
seule, qui était aigrie par la vie,
de très haute société à Coimbra et puis que très aigrie, bon, mais très, très, très farouchement catholique, mais complètement décalée quoi, par rapport à la société.
Elle était un peu divisée entre sa croyance et puis son attitude.
Et puis un jour, elle a découvert que une chose, c'est peut-être ce qu'elle entendait à la messe tous les jours, parce qu'elle était tous les jours pratiquement, et puis une autre chose, c'était le message vraiment du Christ, le christianisme pur. Et elle a compris ça, et puis évidemment son comportement a changé.
Envers Maria. Alors après, Maria travaille, elle a 16 ans, elle va travailler à l'usine Triomphe.
Oui.
Voilà, et là elle va rencontrer Alcide, votre papa. Une histoire d'amour avec Alcide, mais qui ne se passe pas quand même au départ très bien, parce que le frère aîné d'Alcide, il y a une différence de classe sociale entre Alcide et Maria, et donc le frère aîné d'Alcide voit d'un très mauvais œil cette histoire.
Parce que mon père, effectivement, il était d'une famille très très aisée. Mais qui avait été un petit peu répudié par la famille, et qu'il a été obligé d'aller travailler dans une usine, quoi. Et puis c'est là qu'il a rencontré ma mère. Mais la famille ne supportait pas ça. La famille de mon père aimait bien quand même que mon père travaille dans cette usine, mais que c'était comme une punition temporaire, avec l'espoir qu'un jour il se ressaisisse et qu'il revienne à la caste sociale initiale, et qu'il se marie avec une personne
avec
de leur rang,
quelqu'un de sa classe. Voilà.
Et là, quand il découvre cet amour-là avec une ouvrière comme ça du bas de la société, évidemment ça a répugné la famille, donc de là il y a eu tout un conflit.
Mais finalement, miraculeusement, Manuel, donc le frère aîné d'Alcide, est revenu sur sa décision. Lui aussi, il a eu une prise de conscience, on va dire, comme Béatrice, la veuve du gradé, et finalement ils ont pu se marier, Alcide et Maria ont pu se marier.
Ça a été le triomphe de l'amour. Là.
Voilà, oui, tout à fait, et donc ils se sont mariés, ils ont eu un petit garçon, d'ailleurs, qu'ils ont prénommé Manuel, comme le frère aîné d'Alcide, mais qui malheureusement n'a pas vécu très longtemps, votre grand frère.
Oui, il a vécu 5 ans, parce que un jour, il a mis les pieds sur un tesson de bouteille, dans du verre, ça lui a perfuré un pied. Et puis le temps, à l'époque, vous pensez, l'hôpital était à 5 km de la ville, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Le temps qu'il arrive à l'hôpital, bien sûr, il est arrivé déjà mort.
Et ensuite, donc, il y a eu la période de la Deuxième Grande Guerre, avec la faim, bien sûr, pour les plus pauvres, malgré la neutralité du Portugal, à l'époque. Le Portugal était neutre dans cette guerre. Les files d'attente devant les magasins, etc. Donc, une période très rude, très difficile. Et puis, vous arrivez fin 1944. Voilà, c'est la naissance d'Enrique. Maria donne naissance à un deuxième garçon. C'est vous. Et ensuite, elle déménage. Enfin, il y a plusieurs épisodes. Donc, votre papa, lui, décède à l'âge de 33 ans de tuberculose. Vous aviez 5 ans à l'époque. Ça fait jeune pour perdre son papa, mais là aussi la tuberculose, c'était une maladie qui n'était pas bien
assez répandue,
répandue et pas forcément bien soignée.
C'est-à-dire que quand on se prend en charge de soigner cette maladie, c'est déjà trop tard, quoi.
Oui. Ouais. Ouais, il fumait beaucoup. Il avait une vie difficile, aussi. La vie était rude, cette époque. Faut pas l'oublier. Et ensuite, donc, vous allez à l'école primaire, donc il n'y avait pas d'école maternelle à l'époque, il n'y avait pas la même. Voilà, on passait directement à l'école primaire à l'âge de 7 ans. Et votre école était à 5 km de votre domicile, donc vous faisiez 5 km le matin, 5 km le soir à pied. C'est quelque chose. Vous emmeniez votre repas du midi, mais comme vous étiez gourmand, vous le mangiez déjà à 10 heures.
Et après, à midi, il n'y avait pas grand-chose.
Voilà. Et puis, vous avez eu votre première cuite, entre guillemets, à 7 ans, après les vendanges, une fois, avec la fabrication de l'eau de vie. Vous avez bu un peu dans les verres, enfin dans les...
Ah oui, c'était parce qu'à l'époque, bon, justement, en cette période-ci, vers la Saint-Martin, les paysans, bon, enfin les paysans, les gens dans le coin, chacun ils avaient son lopin de vigne et puis chacun avait son alambic personnel.
Ah bah, voilà,
des,
ouais,
des gros engins, c'était quelque chose d'énorme. Alors ils faisaient la distillation de l'eau de vie chaque dimanche, comme ça ils pouvaient se rencontrer à 4 ou 5 et puis ça faisait de famille en famille. Et puis j'y étais et je les voyais goûter, comme ça mettre l'eau, quand ça commençait à le filet qui arrivait au bec,
ouais.
Ils mettaient le doigt et puis ils goûtaient et puis ils disaient « Ah, mets un peu plus de bois, monte la chaleur, ou alors baisse la chaleur, ils te donnaient des indications techniques, mais tout en mouillant le doigt. Et puis quand ils ont tourné le dos, j'ai fait pareil.
Ah oui, mais voilà.
Et puis un doigt par-ci, un doigt par-là, un doigt par-là, et bien je ne me rappelle plus.
Ce qui s'est passé après, il y a un trou noir, quoi.
Il y a un énorme trou noir jusqu'au lendemain.
Alors ensuite, donc, votre maman est devenue, Maria, est devenue lavandière, donc, comme on le disait tout à l'heure, dans un hôtel à Coimbra, où elle lavait les draps dans le fleuve. Et vous, à 11 ans, vous avez commencé à travailler, donc d'abord dans une épicerie, hein, comme garçon de course dans une épicerie, ensuite apprenti mécanicien avec votre cousin, ensuite vous avez travaillé dans une quincaillerie, puis dans une usine qui fabriquait des statuettes en terre cuite.
Oui, hein? Alors là, c'était bon, la partie là. La plus intéressante, bon, parce que ces expériences-là de mécanique, de quincaillerie, tout ça, bon, c'était quelques mois. Mais déjà, donc, à 12 ans et demi, 13 ans, à 13 ans, j'étais déjà dans l'usine de là, qui fabriquait de la statuaire en terre cuite, et de A à Z, quoi. Et moi, j'étais dans la section de peinture, et c'est là que j'ai évolué jusqu'à l'âge de 17 ans.
Et vous fréquentiez aussi la bibliothèque et vous faisiez du théâtre en même temps.
Oui,
hein,
oui,
voilà.
Le théâtre.
Vous étiez déjà, voilà, les livres, là, c'était important pour vous.
Oui.
Hein.
Moi, je sortais de l'usine à 5 heures, 8h midi, 1h 5 heures. Et puis de l'usine, soit j'allais à la bibliothèque, soit j'allais à mes répétitions de théâtre, mais je n'étais jamais à la maison avant 8h, 8h30 ou 9h, quoi.
Alors en 1900, oui, puis il n'y avait pas forcément la télévision, enfin il n'y avait pas toutes ces choses qu'il y a maintenant qui font que les jeunes, entre guillemets, ben, restent chez eux collés à leur écran. Hein,
il n'y avait pas de jeux,
voilà,
des consoles
de
jeu, il n'y avait pas d'MP3, ni rien du tout.
Alors en 1965, c'est la guerre en Afrique, hein, alors votre grand-mère Lucia meurt. Maria donc vend la maison de Chéra, donc c'était une maison que vous aviez habitée. Et puis donc vous prenez des cours du soir pour préparer le baccalauréat, mais vous ne pouvez pas finir vos études parce que vous êtes appelé à l'armée, hein, pour le service militaire, et l'armée refuse de vous donner un sursis pour finir vos études.
Oui, j'avais demandé, il me manquait une année pour avoir le bac, parce que bon, un cours du soir, on pouvait faire. Bon,
oui, c'était
en
plus long.
En travaillant bien, on pouvait faire deux années dans une. Bon, il me manquait une année. Et puis j'avais demandé un sursis pour finir.
Parce qu'après
l'armée, il me fallait 3 ans d'armée, puisqu'il fallait faire l'Outre-mer, la guerre en Outre-mer, etc. Et si je partais à l'armée sans le bac, je partais comme ça, bon, en tant que caporal, comme ça. Alors que si j'avais le bac, j'étais déjà comme sous-officier, bon, c'était déjà meilleur. Et puis, avec l'avantage, c'est que quand je sortirais de l'armée, je pouvais avoir accès à
un métier
qu'on m'avait déjà promis à l'époque, c'était pour rentrer à la PJ de Coimbra, mais il me fallait avoir le service militaire et le bac pour y rentrer. Alors, s'il ne me donnait pas l'année de sursis, tout était bousillé.
Et donc,
je suis parti en
et
France.
Donc, du coup, vous avez, voilà, à 20 ans, vous avez pris la décision de partir en France, mais donc, il faut le préciser, bien sûr, clandestinement, hein, à l'époque, vous étiez attendu à l'armée et vous avez pris les chemins de traverse pour aller en France.
La traversée des Pyrénées à pied.
Et oui, donc ça, c'est toute une aventure, hein, c'est une aventure singulière. Ouais. Et puis donc, Donc après, bon, donc la seconde partie, on va dire, du roman, bon, bah, c'est votre installation, bon, bien sûr, à Toulouse. Donc 2 ans après votre départ, donc votre mère n'a pas eu de vos nouvelles pendant 2 ans. Hein. Elle savait que vous étiez partie clandestinement, mais vous avez voulu lui en dire le moins possible, hein, pour pas qu'elle soit inquiétée. Et vous êtes revenu la chercher 2 ans après.
Oui.
Vous l'avez amenée à Toulouse, hein, parce que
oui,
c'est là où vous avez...
clandestinement aussi. Aller revenir clandestinement au Portugal à chercher et revenir avec elle clandestinement.
Oui,
aussi.
Donc elle a fait le voyage, elle aussi clandestinement et avec vous. Ça
et
devait être une aventure, ça aussi.
Il y a une époque où, aussi bien au Portugal qu'en Espagne, il y avait deux dictatures et qui s'entendaient très bien. C'est-à-dire que si j'étais attrapé en Espagne, je serais au Portugal
oui,
dans les 24
c'est
heures.
C'est Franco, c'était Franco. Hein.
Je serais dans les jours
oui.
immédiatement. Quoi.
Tout à fait. Ouais. Donc après, bon, bah, la deuxième partie, là, le temps nous rattrape malheureusement trop vite. Il faut lire ce livre, La Rive cachée d'Henri de Carvalho. Donc la deuxième partie, bon, bah, voilà, c'est votre vie en France. Hein, donc deuxième partie de votre vie. Hein, vous avez, comme on peut dire, vous avez un peu deux vies, hein, la vie au Portugal et puis la vie en France. Et puis
oui.
bon, votre maman qui est finalement voilà, est venue en France, repartie au Portugal et puis re-revenue en France et puis finalement s'est éteinte au Portugal en 1992.
Oui. C'est ça. Ouais.
Voilà. Ouais. Et donc c'est, voilà, c'est vraiment un très beau livre qu'il faut lire, non seulement comme l'a dit Henri tout à l'heure pour le témoignage de cette époque, de ce pays et puis de cette histoire qui somme toute est une histoire singulière. Enfin, toutes les histoires de tous les personnages sont des histoires singulières, chaque histoire est singulière.
Oui, oui.
Donc il fallait l'écrire, ce livre. Vous avez bien fait de l'écrire, Henri.
Ça fait, oui, ça témoigne de personnes, ça témoigne d'une époque, ça témoigne d'une pression sociologique, et puis ça témoigne aussi de tradition.
Oui, il y a aussi, les, voilà,
les
on n'a pas parlé, mais il n'y a pas qu'avec avec le prêtre qui allait bénir chaque maison. Enfin, on apprend plein de choses hein, dans
oui.
ce livre. Hein. Il y a
alors,
plein de choses que je ne connaissais
oui,
pas.
Voilà, je tenais beaucoup
à restituer
ces traditions parce que malheureusement, aujourd'hui,
ça
elles se perdent un petit peu. Quoi.
Oui,
dommage,
il y a beaucoup
quoi.
De croyances, il y a beaucoup de, ouais. voilà, de foi dans ce livre, d'émotions, ouais. comme je le disais, et puis d'espérance avec la petite flamme de la bougie.
Ah, oui, les gens à cette époque-là, bon, on parlait d'espoir, mais je ne crois pas que c'était l'espoir qui les faisait
ah,
vivre.
C'est une musique qu'Edgar a choisie pour vous, Henri. Hein. C'est une chanson fort connue dans le monde entier, une chanson de portugaise hein, de votre pays. Alors, vous reviendrez avec peut-être le nouveau roman que vous venez de terminer, hein. J'espère. Vous reviendrez nous en parler ici à Radio Occitanie. En tout cas, merci d'être venu, Henri. Et puis la semaine prochaine, je recevrai Marian Folio qui nous parlera de son travail d'écriture parce qu'il n'est pas encore publié, il est en train d'écrire un roman. Donc ça sera une première pour Page à Page hein, de recevoir quelqu'un qui n'a pas encore publié. Donc ça sera la semaine prochaine et on se quitte en écoutant la jolie voix de cette chanteuse. Merci Henri, Alicia.
Canções
da meiga que nos pões os nossos corações a nu. Coimbra dos doutores, para nós os teus cantores, na ponte dos amores és tu. I found my April dreams in Portugal with you. When we discovered you.